La diaconie, une manière originale d'habiter la solidarité et d'animer la vie associative. Avec nous, Gilles Rebèche. Dites-nous en quoi consiste cette originalité de la diaconie.
Le mot de la diaconie, c'est un mot qui fait partie du trésor de l'Église. C'est une façon de parler du service communautaire organisé dans une église locale. L'originalité du diocèse de Fréjus-Toulon, c'est d'avoir cru qu'il était possible de remettre l'option préférentielle avec les pauvres au cœur de la préoccupation pastorale. Donc à l'échelle d'un diocèse qui est très varié, on a Mgr Gilles Barthes qui a fondé la diaconie, a insisté pour que les paroisses, les services, les mouvements, les groupes de spiritualité mettent l'attention aux plus pauvres, la solidarité avec tous les blessés de la vie, comme une préoccupation centrale, non pas comme une préoccupation périphérique, latérale, mais au cœur.
Et comment lui est venue l'idée ?
C'est un évêque qui a vécu le concile, qui avait traversé beaucoup d'épreuves, d'épreuves personnelles.
Nous sommes dans lesquelles années ?
Ça, c'est dans les. Il a fondé la diaconie en 82, mais il avait été prisonnier pendant la guerre. Dans les années 70, beaucoup de ses prêtres avaient quitté le ministère. Il a vécu des choses assez difficiles.
Et il y a eu un événement qui a déclenché cette diaconie ?
Alors, il y en a eu plusieurs. J'aime en raconter un qui me touche sur la personnalité de Gilles Barthes, qui était quand même un professeur de philo, qui avait été aussi archevêque de Monaco. Et les derniers temps de sa vie, il avait eu un accident. Il s'était cassé la clavicule. J'étais allé le voir à la clinique. Il n'arrivait plus à être autonome et aller tout seul aux toilettes. Et je me souviens, en allant le voir sur son lit d'hôpital, il m'avait dit, tu sais, toute ma vie, j'ai remis des médailles à ceux qui s'occupaient des autres. Et là, je demande pardon au Seigneur, comme je voudrais mettre des médailles à tous ceux qui supportent qu'on s'occupe d'eux. Et il m'avait dit, tu sais, la diaconie, j'aimerais qu'on considère les pauvres, non pas comme des objets de la charité, mais comme des sujets de la foi et des frères de l'Évangile. Et il m'a dit, si tu comprends ça, on peut lancer la diaconie.
Est-ce que cet événement que vous venez de nous raconter a permis aux prêtres, aux curés des paroisses, de mettre les pauvres au cœur ?
Ce qui souciait Mgr Barthes, qui était plutôt un homme façonné aussi par la tradition de l'action catholique, c'était de réaliser que dans son diocèse, il y avait des secteurs entiers, des quartiers où l'Évangile n'était pas annoncé. Il me disait parfois, j'ai l'impression de ne pas être vraiment un évêque catholique, j'ai l'impression d'être un évêque des classes moyennes et des amiraux. Il me disait, il y a des quartiers où il y a une forte demande, par exemple de catéchèses, de groupes bibliques. Et il dit, mais je n'arrive à trouver personne, ni dans mon clergé, ni dans les agents pastoraux, pour aller dans ces quartiers. Et sa première intuition, ça a été de nous demander de mettre en place des équipes d'animation pastorale dans ces quartiers. Donc on a fait appel à des congrégations religieuses, comme les frères capucins qui sont venus habiter en cité, des consacrés, des laïcs consacrés. Et dans les quartiers, la diaconie a commencé comme ça, de manière toute simple, par des rencontres fraternelles avec des familles très pauvres que nous avions connues dans une cité de transit où j'avais été volontaire du mouvement Aide à toute détresse Carmonde.
Parce que Gilles Rebèche, on ne l'a pas dit encore, mais vous n'êtes pas prêtre, vous êtes diacre, vous avez une cinquantaine d'années et vous avez choisi d'être diacre.
J'ai répondu à l'appel de Mgr Barthes qui m'a parlé du diaconat. Bon, ça fait 25 ans. À l'époque, j'avais du mal à comprendre sa demande. Ça s'est fait dans un contexte assez particulier. Très jeune, j'ai voulu donner ma vie au Seigneur. Et après avoir connu l'événement du Concile des jeunes de Thésée, on m'a bien sûr conseillé de rentrer au séminaire. Et quant au séminaire, on m'a proposé de venir au séminaire français à Rome. À l'époque, dans mes 20 ans, j'ai eu l'impression qu'on me proposait une sorte de plan de carrière, une carrière ecclésiastique pour le service de mes frères. Mais disons que je n'ai pas senti pour moi, à ce moment-là, avec justesse, l'appel du Seigneur. Alors j'ai rejoint le père Joseph Wrzeszynski dans les cités de transit avec le mouvement ATD Carmonde. et j'étais renvoyé par le Père Joseph sur Toulon pour développer ce mouvement. Et le Seigneur a toujours ses guet-apens de la grâce. Il y a deux événements qui m'ont particulièrement touché. En arrivant à la cité de transit, un homme avait fait une tentative de suicide pour des raisons compréhensibles. Il avait été trahi par sa femme, sa fille aussi était enceinte. Et j'avais été appelé pour le garrotter en attendant que les pompiers arrivent. Il saignait beaucoup, je venais d'arriver dans la cité, ça faisait quelques heures que j'étais là. Et pendant que je le garrotais en attendant que les pompiers arrivent, il m'a répété à plusieurs reprises cette phrase, mais qui es-tu pour m'empêcher de mourir? Et cette phrase m'a bouleversé, je crois que ça a été une manière dont j'ai été retourné par le Seigneur à ce moment-là, et d'ailleurs je le dis de temps en temps dans ma prière, au Seigneur lui-même, mais qui es-tu pour m'empêcher de mourir? C'était une question à laquelle je ne pouvais pas répondre. Et tout ce que j'avais redécouvert au sein du mouvement ATD Quart-Monde, en termes de militance, d'organisation de la parole des pauvres, même si elle me comblait, eh bien ne trouvait pas sa vraie dimension. Et finalement, c'est le mouvement ATD Quart-Monde qui m'a ramené au cœur de la vie ecclésiale. Et il y a eu un deuxième événement, c'est un militant d'ATD Quart-Monde, Daniel, qui avait participé à une fête, qui avait beaucoup cru à cette fête, qui après une fête des enfants a voulu créer dans son quartier un comité de quartier. Et il a suscité la jalousie d'un gardien qui était un peu dépressif et qui lui a tiré une balle dans la tête. C'était le premier militant Quart-Monde d'ATD dans les années 80, il était à Toulon, et ça a été un drame. Et quand je suis allé reconnaître son corps avec son épouse à l'hôpital de la Timone à Marseille, sa femme m'a dit « Je ne crois pas qu'on va l'enterrer à l'église ». Et quand je l'ai interrogé, elle m'a dit « Mais tu sais, on ne s'est pas marié à l'église ». On habitait à l'époque dans un bidonville, et quand on est allé voir le curé avec toutes les questions qu'il nous a posées, on a pris peur. On a simplement trempé nos alliances dans le bénitier, on est reparti. Je lui ai dit « Écoute, t'en fais pas, on l'enterra à l'église. Et je vais appeler l'évêque ». Et c'est comme ça que j'ai repris contact avec l'évêque sur un coup de tête que je n'avais pas vu depuis plusieurs années. Toujours est-il que Mgr Barthes était là le jour des obsèques. Et c'est lui qui a enterré Daniel. Et puis à la fin de la célébration, il m'a dit « Il faut qu'on se revoie ». Puis ses premières questions, ça a été de dire « Mais où tu en es? Comment tu as? Quels sont les textes d'évangile qui t'ont marqué cet an dernier ?» Je lui ai parlé de Jean 13, du lavement des pieds, qui était un texte où j'étais bouleversé par la question de Jésus. Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous, cette invitation à être serviteur. Et alors il m'a dit, mais est-ce que tu voudrais pas être diacre? Pour moi, à l'époque, les diacres, c'était des hommes âgés, mariés, des sortes de sacristains, d'aides aux prêtres. Je voyais vraiment pas ce que me demandait Mgr Barthes. Alors là, il m'a expliqué ce qu'était pour lui le diaconat. Il m'a parlé de Saint-Laurent, de Saint-François d'Assise. Il m'a parlé du rêve des pères du Concile, au moment de la constitution Gaudium et Spes, d'avoir des hommes ordonnés pour rendre l'église locale plus proche de la société civile, mais proche des pauvres et des petits. Il m'a dit, je voudrais des jeunes diacres ordonnés, qui finissent ses études de théologie et qui m'aident à mettre en place le concile à l'échelle d'une église locale. Sinon, ça va rester que des grandes organisations internationales et les diocèses vont se limiter à faire de l'animation religieuse. Il faut que l'église locale, elle fasse vraiment son aggiornamento. Il m'a dit qu'il faut faire aussi l'aggiornamento de la charité, pas simplement de la liturgie. Il faut qu'on arrive à, je le disais tout à l'heure, que les pauvres restent des sujets de la foi. Et je me suis laissé finalement appeler par cet évêque, enfin, c'est séduire par sa parole. C'était un vieil homme, quand il m'a ordonné, il avait passé 75 ans, et 6 mois après mon ordination, eh bien, il a été admis à la retraite, et j'ai finalement appris mon ministère avec un nouvel évêque, Mgr Madec, qui arrivait de Rome, de Saint-Louis des Français, qui lui se trouvait avec un jeune diacre célibataire à ses côtés. Bon, par bonheur, il était classique et il a découvert son métier d'évêque en puisant dans les pères de l'Église. Et chez les pères de l'Église, les évêques ont souvent des diacres à leur côté. Donc il a commencé à me confier différentes tâches, telles que la réorganisation du restaurant social de la ville pour les sans-abri, le catéchuménat dans les quartiers difficiles, l'alphabétisation pour prendre la relève des sœurs blanches qui étaient présentes auprès du milieu du Maghreb.
Comment est-ce que cette diaconie s'est développée?
Elle s'est développée par capillarité. La charité, elle a besoin à la fois de gestes et de paroles. Donc il faut quand même poser des actes, accomplir des actes de simple humanité. Donc on ne peut pas se dérober face à l'engagement avec les pauvres. Ça fait partie d'une démarche pascale. Comme Laurent qui a demandé 3 jours pour retrouver les pauvres, il faut accepter de suivre Jésus dans ce geste du lavement des pieds, devenir serviteur, accepter de le rejoindre jusque dans le visage du serviteur souffrant défiguré quand on n'en a plus rien à dire, parfois accepter de se taire et d'être sans mots comme le samedi saint, mais savoir aussi qu'il nous remet debout et qu'avec lui, nous-mêmes et l'ensemble du corps du Christ qu'est l'Église peut retrouver son visage ressuscité.
Merci.
Merci à vous.